Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez Sophie Durocher.
En pleine pandémie, on a une pensée toute spéciale pour toutes les personnes qui sont des proches aidants ou des proches aidantes parce que, évidemment, la pandémie est venue rajouter une couche de difficulté à une vie qui est déjà extrêmement complexe. C'est un bon moment pour parler du livre Guide de survie des proches aidants. On va parler avec Lorraine Brissette, qui est travailleuse sociale spécialisée en gérontologie. Elle est co-auteure de ce livre-là. Madame Brissette, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez le sens du timing, comme on dit en chinois, c'est-à-dire que votre livre sort en pleine pandémie, en pleine cinquième vague. Donc, en temps normal déjà, la pression est énorme sur les proches aidants. Dans quelle mesure est-ce que la pandémie a rajouté une couche de difficulté pour les proches aidants, Madame Brissette?
Bon, mais tout d'abord, on doit dire que nous, on a commencé déjà il y a 28 ans à travailler avec les proches aidants. Donc, pour nous, c'était pas un phénomène qui était nouveau. Mais vous avez raison de dire que la pandémie, elle est venue augmenter le fardeau des proches aidants pour une raison très simple. C'est que le proche aidant, souvent, il est isolé. Isolé à la maison, isolé avec le malade, pas beaucoup de sorties, pas beaucoup de visites, peu d'activités. Et là, avec la pandémie, on est venu les isoler davantage. Et le deuxième facteur, c'est que on a entendu parler du manque de personnel dans les milieux hospitaliers, manque d'infirmières, de préposés. Alors, imaginez, dans les services à domicile, on a exactement le même problème. Il y a moins d'infirmières pour aller à domicile, moins de préposés, donc il y a beaucoup moins d'aide pour les personnes qui sont très vulnérables, qui ont besoin de services et qui sont à domicile. Là aussi, il y a eu beaucoup de délestage. Donc, c'est un double, je dirais, c'est une double peine par rapport à la pandémie actuelle.
Votre livre, donc, c'est très intéressant. Donc, vous et la co-auteure du livre, donc, vous le dites, ça fait 28 ans là, que vous travaillez dans ce domaine-là.
Oui, c'est Mme Michèle Arcan qui est psychologue. C'est pour ça que c'est important d'avoir les deux regards. Oui. C'est assez original aussi comme démarche d'avoir ces deux visions, celle du social, mais aussi celle de la psychologue.
Donc, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre-là? Donc, je rappelle le titre, Guide de survie des proches aidants, parce que survie, c'est quand même un terme fort, donc la survie des proches aidants est menacée.
Oui, ben écoutez, oui, le terme est fort. Il y a peut-être un petit peu, on est en pandémie, alors tout est un petit peu amplifié au niveau des émotions, mais c'est vrai que la situation, et ça, tous les intervenants avec qui on travaille, nous, qui sont en contact avec les proches aidants. Tous les intervenants nous disent que la détresse n'a jamais été aussi grande, aussi importante. Le fait de ne plus avoir de contact, et les seuls contacts qu'ils ont, c'est par visio ou par téléphone. Mais beaucoup de proches aidants sont d'une génération où les visios, c'est pas quelque chose qui est pour eux très, très facile. Mm-hmm. Et c'est le manque de contact avec la clientèle qui amplifie le problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de détresse émotionnelle chez les proches aidants. Et ça, tout le monde, les travailleuses sociales, les infirmières nous en parlent.
Oui, c'est très important d'en parler parce que cette détresse-là, il faut la nommer, il faut l'écouter, il faut en prendre soin. À un moment donné, dans votre livre, vous dites un conseil que vous donnez aux proches aidants, c'est de voir leurs tâches non pas comme un sprint, mais comme un marathon. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
C'est que quand la maladie s'installe dans un couple, dans une famille, les gens sont plus jeunes, ils ont encore de l'énergie, ils sont pleins de volonté. Et là, ils s'embarquent à 100% sans souvent penser à eux-mêmes, sans se garder une place pour eux. Ils se jettent dans la mêlée de façon totale, mais ils ne réalisent pas toujours que cet investissement-là d'énergie qui est énorme, ben, ça peut durer des années et des années et des années. Donc, le proche aidant qui anticipe une longue période d'aidance, il doit fonctionner comme un marathonien, c'est-à-dire s'investir, mais en calculant son investissement, en ménageant son énergie de façon à durer jusqu'au bout du marathon.
Il faut qu'il s'économise.
Oui,
il faut qu'il s'économise, voilà.
Oui.
Mais oui, en même temps, c'est pas évident. Parce que quand on reçoit, mettons, le diagnostic, je pense par exemple à quelqu'un qui est conjointe de quelqu'un qui reçoit un diagnostic, on n'a pas envie de dire, ben écoutez, mon cher mari ou ma chère épouse, je vais pas prendre soin de vous à 100%, je vais pas me donner à 100%, je vais m'économiser parce que je sais qu'on est là-dessus pour le long terme. Donc je vais juste m'impliquer à 20% parce que je sais que j'en ai pour plusieurs années. Vous comprenez, c'est un peu c'est notre réaction spontanée, c'est de dire ben je vais donner tout ce que j'ai à donner parce que c'est la personne que j'aime puis je veux en prendre soin. Mais à faire ça, on risque d'épuiser nos énergies, d'épuiser nos forces.
Mais je pense pas qu'on arrive avec un conseil de se ménager à 20 ou à 40%. Je pense que c'est de juste garder en l'esprit l'idée que je suis quand même une personne et non pas seulement un proche aidant. Donc, j'ai à me garder une zone à moi, soit d'avoir des amis personnels, soit d'avoir quelques activités personnelles. Donc, je dois continuer d'exister avec la personne que je soutiens. Parce qu'au fond, si je veux me rendre jusqu'au bout de mon marathon, jusqu'au bout de mon engagement, ben, je suis obligée de faire attention à mon énergie. Je ne peux pas tout donner en partant. Je dois donner, oui, tout ce que je peux donner, en étant conscient toujours que je dois me garder une petite marge de réserve pour moi-même.
Pourquoi les proches aidants sont souvent, très majoritairement, des proches aidantes?
Bon, oui, ben, je pense qu'il y a quelque chose de culturel. Il y a eu des recherches déjà dans le passé qui ont été faites. Il y a une espèce d'attribution des rôles. Généralement, bon, quand c'est un couple, ça peut être l'homme ou la femme qui devient le proche aidant. Mais dans une fratrie, ça va plus souvent, ça va être une fille. Ça peut être la fille aînée. Ça peut être la fille qui n'a pas d'enfant, qui est célibataire, ou la fille qui a un diplôme d'aide-soignante ou d'infirmière. Il y a comme des attributions, il y a comme des ordres comme ça. Donc, c'est culturel. On le retrouve en France, en Italie, dans plein de pays. C'est quelque chose de culturel et d'historique, où c'est la femme qui avait la fonction de maintenir la famille.
Et comment on fait pour briser ça? C'est-à-dire que, mettons qu'il y a 5 enfants ou dans une famille, puis que ça tombe sur la fille aînée ou enfin une des filles dans la famille, est-ce qu'elle peut se tourner vers les autres en disant, écoutez, moi, là, je peux pas tout faire toute seule. C'est pas vrai que moi, parce que je suis la fille ou parce que je suis l'aînée, je dois tout prendre sur mes épaules. Comment on fait pour négocier avec le reste de la fratrie une sorte de partage des tâches? Pour alléger, justement, la tâche des proches aidants?
C'est pour ça qu'on a écrit notre livre. Parce que il y a beaucoup de proches aidants qui ne se donnent pas le droit d'avoir des besoins, oui, qui ne se donnent pas le droit de demander. Et nous, c'est tout le sens de la démarche d'amener le proche aidant à vouloir prendre soin de lui et à vouloir utiliser des ressources. Et on pense que la famille, nous, c'est une ressource. On veut amener le proche aidant à faire des demandes à sa famille, ses frères, ses sœurs, la fratrie, ou à faire des demandes dans le réseau public ou dans le réseau communautaire. Mais la famille est une ressource, et dans bien des cas, c'est une ressource qui n'est pas assez utilisée par les proches aidants. Ils veulent pas déranger, ils veulent pas se plaindre, il y a toute leur image personnelle aussi qu'ils veulent garder. Et puis, ils se sentent coupables de demander parfois de l'aide. Ils ont peur de se sentir jugés. Il y a plein de facteurs qui font que les gens, il va y avoir toutes les réponses à l'intérieur de ce livre-là, parce que c'est exactement ces choses-là dont on parle.
Je comprends. À un moment donné, vous donnez un certain nombre de stratégies à adopter, et vous dites, la personne là qu'on aide, quand on est un proche aidant, il faut quand même lui laisser, ne pas faire à sa place ce qu'elle peut encore faire. Parce que j'imagine qu'au début, on a tendance à dire, cette personne-là vient d'avoir un diagnostic, ses facultés commencent à décliner, donc je vais tout faire à sa place, je vais l'infantiliser un peu. Donc ça, c'est un danger aussi. Pour économiser nos propres énergies, il faut fonctionner avec toutes les capacités que la personne a encore, en profiter, les exploiter dans le bon sens du terme, là.
Oui, les exploiter peut-être et aussi lui laisser sa dignité le plus longtemps possible. Parce qu'il y a une question de dignité aussi dans le fait de faire ce qu'on peut faire. Si je peux encore m'habiller tout seul ou si je peux encore prendre mes aliments puis manger toute seule, il y a une question de dignité. C'est pas seulement pour sauver de l'énergie au proche aidant, mais c'est pour continuer de garder la dignité de la personne malade.
Oui. Il y a une chose dont une sorte de tabou dont on, évidemment, comme tous les tabous, on n'en parle pas. À quelques occasions, en entrevue, Chloé Sainte-Marie, qui a été proche aidante, donc de son conjoint Gilles Carle, pendant des années, elle en a parlé, elle a dit que à plusieurs reprises elle avait pensé à s'enlever la vie parce que c'était juste trop lourd et que c'était vraiment était au bout du rouleau. Comment on fait pour prendre soin de sa santé psychologique quand on est à bout, quand on est épuisé?
Bon, évidemment, nous, on a une démarche de prévention. On essaie le plus possible d'intervenir avant que la personne tombe en épuisement total. Parce qu'une personne en épuisement total, il faut, de façon temporaire ou permanente, là, que la personne soit peut-être retirée, que la personne soit en repos complet, qu'elle puisse récupérer physiquement et psychologiquement. Donc, souvent, on va être obligé de penser à des hébergements temporaires pour le malade ou bon, différentes modalités comme ça. Donc, en situation d'épuisement, la personne ne peut plus continuer à moins d'avoir beaucoup d'aide, qu'on mobilise beaucoup de monde ou qu'on puisse faire un hébergement. Mmh. Nous, c'est avant. On essaie vraiment d'inciter les gens à s'occuper d'eux dès le départ. Et il y a une phrase qu'on entend beaucoup, que tout le monde dit avec bien de la bonne volonté, c'est « prenez soin de vous ». Ben nous, cette phrase-là, on a un peu de mal à l'entendre. En fait, on ne peut plus l'entendre parce que dire à un proche aidant « prenez soin de vous », ça ne lui dit rien. Comment on fait ça, prendre soin de soi? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire ça, soit parce qu'elles se sentent coupables si elles font quelque chose pour elles-mêmes. Dans d'autres cas, ben on fait ça comment, s'occuper de soi quand ça fait tellement longtemps qu'on s'occupe des autres, on finit par oublier ce qu'on a besoin. On finit par oublier ce qu'on aime, oublier ce qu'on voudrait faire. On n'a même plus la moindre idée de ce qu'on pourrait faire pour prendre soin de soi. Ça, c'est au cœur, je pense, de notre livre, de notre message. Et puis, j'ai envie de dire, il y a des proches aidants, il y a aussi des proches des proches aidants. Alors, si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui est proche aidant dans votre famille, il ne faut pas lui dire « prends soin de soi ». Il faut que cette personne-là dise « de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? »
Au lieu de demander... Oui, au lieu de dire à la personne « prends soin de toi », ben c'est à nous de prendre soin de cette personne-là.
Exactement.
Peut-être de pas lui laisser le choix, hein, de lui... Ben là, évidemment, en ce moment, il n'y a pas grande activité qu'on peut faire. On peut pas lui dire « Viens-t'en, on va manger au restaurant. » On peut pas lui dire « Viens-t'en, on s'en va au cinéma. » Mais on peut peut-être l'amener au musée. Les musées sont ouverts. On peut lui payer...
Pardon? Je cuisine actuellement pour une personne. Là, bon, on va porter des petits plats, on rentre pas dans la maison, on apporte des petits plats cuisinés. C'est tellement agréable, il y a des gens qui sont seuls et qui ne se font pas manger parce qu'ils n'ont pas envie de manger, ils n'ont pas envie de cuisiner. Alors, c'est des choses aussi simples, ça peut être des téléphones. On peut dire, cette personne-là, je l'appelle tous les jours pour prendre de ses nouvelles.
Oui.
Au lieu d'apprendre à demander... On peut peut-être, nous tous, apprendre à offrir quelque chose.
Oui. Il y a quelque chose que vous avez soulevé tout à l'heure quand vous disiez, bon, ça peut être de demander un répit pendant quelques jours, quelques heures. On va se le dire quand même, les ressources manquent. Tout à l'heure, je parlais de Chloé Sainte-Marie, donc elle a réussi à mettre sur pied différentes maisons Gilles Carle un petit peu partout au Québec, mais ça en prendrait beaucoup plus. L'évaluation que vous faites, des mesures qui sont offertes sur le terrain, est-ce qu'elles sont suffisantes pour répondre aux besoins?
Elles ne sont pas suffisantes. Écoutez, moi, j'ai été gestionnaire de services à domicile pendant des années. On vit dans une pauvreté de services qui est terrible à gérer. Actuellement, ça ne s'est pas amélioré. Avec la pandémie, il y a encore moins de services parce que les gens sont malades, en partie. Alors, on n'a pas de services à offrir. On a du répit dans les centres d'hébergement. Il y a quelques expériences comme celle de Mme Sainte-Marie, mais c'est nettement insuffisant. Il y a le baluchon Alzheimer qui fait des belles choses. Encore là, c'est insuffisant en quantité. Je pense qu'il y a un gros boulot à faire. Pas seulement construire des centres d'accueil qui vont coûter extrêmement cher, mais au niveau des soutiens à domicile, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas se déprimer non plus. Puis on a abordé dans notre livre une question qui est un petit peu tabou, on va le dire tout de suite, c'est que quand il n'y a pas de ressources publiques de disponibles, nous, on dit que les gens, on va les inciter à prendre leur économie, leur épargne, l'argent qu'ils ont de côté pour s'acheter des services pour éviter de se rendre jusqu'à l'épuisement.
Ils vont se brûler financièrement, ça peut être complexe, puis c'est pas tout le monde qui a de l'argent, évidemment, de côté.
Bon, ça, on est d'accord. Mais écoutez, moi, j'ai commencé à travailler avec les personnes âgées il y a 45 ans. Ben, il y a 45 ans, les personnes âgées étaient carrément, on va le dire, pauvres, peu instruites, avec peu d'économie. Si on regarde les chiffres actuels, on s'aperçoit que dans les dernières crises économiques, les couches d'âge qui étaient le plus touchées, c'était les jeunes. Les personnes âgées, bon, il y en a une bonne partie qui sont à la classe moyenne. Il y en a une bonne partie même qui peuvent se permettre d'aller dans des résidences privées à des tarifs très élevés. Moi, je pense qu'on pourrait aussi faire le choix de, plutôt que d'aller dans des résidences avec services très élevés, on pourrait peut-être rester chez soi en acceptant de défrayer une certaine quantité de services. Et je pense que c'est une question de choix, c'est une question de, on n'a pas les services publics qu'on aurait besoin, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
On est conscient que c'est un sujet difficile.
C'est un sujet difficile, ça. Puis c'est, qui pourrait porter à discussion. À discussion. Moi, je pense que c'est important d'en parler. Mais on n'entend jamais de la question d'argent. C'est un tabou.
D'accord.
Oui. On a beaucoup de personnes âgées, nous, à qui on travaille, qui gardent leur argent précieusement pour donner à leurs enfants. Pour
ben non, c'est ça, il faut l'utiliser pendant qu'on en a besoin. Lorraine Brissette, travailleuse sociale spécialisée en gérontologie, vous êtes co-auteure du livre Guide de survie des proches aidants. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.
Merci.
Alors, écoutez, on souhaite bon courage à tous les proches aidants et les proches aidantes. C'est là-dessus que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Paquette à la mise en onde, à la réalisation. Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'être là toujours. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine d'ailleurs. Et on se retrouve demain, la journée post-tempête de neige.